Je souhaite prendre l'exemple de deux personnes. Vous allez voir, ce sont deux personnages de la Bible qui apparemment sont très différents l'une de l'autre. Et j'espère que vous allez voir qu'en réalité, il y a des points communs intéressants qui, pour moi, ont été un encouragement. Donc, j'espère que je pourrai vous le communiquer. La première personne, c'est Esther, qui est une jeune juive qui vit presque 500 ans avant Jésus-Christ, en Perse. À l'époque, c'est un empire qui va de l'Inde à l'Éthiopie. Donc, elle vit dans la capitale de la Perse. Et manifestement, elle ne vit pas dans une famille extrêmement pieuse parce que, à l'époque, les Juifs les plus pieux sont retournés en Israël. Il y a eu des promesses qui ont été faites, des prophéties, des exhortations, notamment par les prophètes Ésaïe et Jérémie. Voilà, un certain nombre de personnes parmi les Juifs ont cru en ces promesses et se sont retournées en Israël. Et Esther, elle, fait partie d'une famille qui est restée à Suse, la capitale de la Perse, à cette période-là. Elle a vécu des choses qui sont manifestement difficiles. Elle a perdu son père et sa mère et on voit que c'est son cousin Mardochée qui l'a adoptée à la mort de ses parents. Et elle se retrouve dans une situation complètement incroyable. Le roi de Perse a répudié la reine et il suit les recommandations des personnes qui sont autour de lui de faire venir toutes les plus belles jeunes filles du royaume pour choisir une nouvelle épouse. Sauf que ça veut dire que Esther se retrouve prise dans cette situation d'être amenée à la cour du roi. Sauf que c'est pas du tout une situation qui est conforme à la loi et juive et à ce qu'elle a pu apprendre en tant que jeune fille parce qu'elle est sélectionnée pour passer une nuit avec le roi et que le cas échéant, ils la choisissent comme reine. Mais si ça n'est pas elle qui est choisie, ça veut dire qu'elle est condamnée à être simplement une femme parmi des dizaines et des centaines d'autres dans le harem du roi. Et donc, c'est contraire à ce qu'on voit en Deutéronome 7 où il est dit de ne pas contracter de mariage avec les peuples et les étrangers. Il est dit aussi dans la loi, bien entendu, de ne pas avoir de relations en dehors du mariage. Et là, on voit que c'est un royaume totalement impie où le roi, en fait, couche avec chaque jeune fille une nuit et il choisit après celle qui lui plaît pour devenir reine à la place de la reine répudiée. Et donc elle va passer une nuit avec le roi sans être sa femme. Et c'est après, il se trouve qu'elle devient, elle est choisie pour reine. Et manifestement, c'est pas quelque chose qui était souhaitable. C'est certains commentateurs soulignent le fait qu'elle n'a pas la même attitude que Daniel, qui à la cour a posé des limites, a dit qu'il y avait certaines choses qu'il ne voulait pas faire parce que c'était contraire à sa foi. Esther, elle se retrouve prise dans cette situation. Et malgré tout, on voit que par certains passages, qu'elle a même dans cette situation difficile, elle a une bonne attitude. On voit qu'elle a dû rester pour son cousin. On voit qu'elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. On voit aussi qu'elle cherche pas à tirer profit de la situation. Il est dit que quand une jeune fille passer de la maison des jeunes filles à la maison du roi, elle avait le droit de prendre avec elle tout ce qu'elle voulait et Esther ne cherche pas du tout à prendre tout ce qu'elle voulait et elle demande uniquement ce qui lui est montré par l'eunuque qui est responsable des jeunes femmes. Et on voit qu'elle trouve grâce auprès de ceux qui la voient, mais dans cette situation compliquée. Et même ensuite, quand elle est choisie comme la reine, elle est dans une situation d'isolement qui est très importante. Elle est surveillée par les eunuques du roi. Elle ne peut plus avoir de contact direct avec son cousin Mardochée, qui était le seul lien qu'elle avait un petit peu avec l'extérieur. Et elle se retrouve dans une situation où elle est très seule. Et une querelle éclate entre Mardochée et le premier ministre du roi, Aman, le premier personnage du royaume après le roi. Et Aman, en quelque sorte, le premier ministre veut détruire tous les juifs du royaume et obtient un édit du roi en ce sens. Et on peut lire du coup ce qui se passe à partir de Esther 4, verset 7. Je vous ai résumé un peu le début. Et donc, à partir du chapitre 4, verset 7, Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouvait grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et donc Esther les invite à un premier festin. Là, le roi sait bien que, en fait, c'est parce qu'elle a une autre demande. Et lui dit encore, Esther, qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? Et elle l'invite à un deuxième festin qui a lieu le lendemain. Et là, c'est au chapitre 7, donc versets 1 à 4, le deuxième festin auquel ils sont invités. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Donc on voit la pression très forte qui s'est exercée sur Esther. On voit par d'autres passages dans le livre d'Esther que le roi est sujet à des accès de colère très forts. Il a l'habitude d'obtenir absolument tout ce qu'il veut. Et on voit au chapitre 1, par exemple, qu'il se met en colère à l'occasion d'un banquet parce que la première reine refuse de venir et qu'il la répudie. On voit un petit peu plus loin qu'il se met en colère contre Aman. Et il le fait mourir immédiatement. Donc, on voit la crainte qui peut s'exprimer du fait de ce roi. Et même si Esther n'était peut-être pas dans la famille la plus pieuse parmi les Juifs qui de cette époque, elle a en tout cas la foi que Dieu se soucie de son peuple et peut intervenir. Et elle prend un temps d'abord pour s'humilier et chercher Dieu et l'implorer. Le jeûne, c'est une façon de supplier Dieu et de s'humilier devant lui et de lui dire qu'on a besoin de lui. Elle demande le soutien de tous les Juifs de la capitale. Et même s'il y a une séparation physique, et je pensais à ce qu'on vit en ce moment où on peut pas se voir de la même façon et c'est plus compliqué, c'était pas le téléphone, c'était un eunuque qui pouvait faire le lien avec Mardoché, mais en tout cas, il y avait une communion, il y avait une, elle, elle sentait le besoin d'être soutenue par les autres et d'avoir l'unité et que les autres juifs aient la même démarche. Et puis ensuite, il y a une forme de sagesse. Elle va peut-être pas demander tout de suite, pas présenter tout de suite sa requête au roi, mais elle organise un festin et puis ensuite encore un deuxième festin auquel le roi est invité. Et en fait, entre les deux, il se trouve que le roi a des insomnies et Dieu va utiliser ça pour. Il y a un concours de circonstances que Dieu va utiliser pour que Mardoché soit reconnu par le roi. Elle a aussi une attitude. Elle présente les choses avec douceur en disant au roi, si c'était seulement entre guillemets agi de nous vendre comme esclaves, je t'aurais même pas dérangé. Mais là, c'est parce que le peuple auquel j'appartiens risque d'être massacré. Et Dieu intervient, il incline le cœur du roi. Comme je disais, il donne une insomnie au roi entre les deux festins qui va préparer la suite. Et on voit vraiment cette intervention. Et voilà, on voit cette jeune femme, même si elle est isolée, même si elle est dans des circonstances difficiles, qui est allée au-delà de ses craintes et qui est intervenue auprès du roi. Et je voudrais qu'on prenne un autre, qu'on pense à aussi une autre jeune femme de la Bible. Là, on va faire un saut en arrière et on va se retrouver 850 avant Jésus-Christ, donc 400 ans à peu près avant. Et là, c'est pas une jeune femme de la tribu de Juda ou de Benjamin, mais d'Israël. Qui a été emmenée captive en Syrie. Et à l'époque, les Syriens sont des ennemis d'Israël. Donc, on voit aussi qu'elle est en terre ennemie, en terre étrangère. Il y a eu des guerres entre la Syrie et Israël. Et même dans des périodes où il n'y a pas de guerre, il y a des espèces de razzias, de pillards. Et elle a été emmenée comme esclave, comme servante. Et on peut lire 5 versets en 2 Rois 5. Verset 1-5. Donc 2 Rois 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Et donc, ce général syrien fait confiance. Et alors, il y va d'une façon un peu à sa façon, puisque d'abord, c'est par contact entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit « mais moi, je peux rien faire ». Et puis finalement, Élisée apprend ça et dit « mais qu'ils viennent me voir ». Et Naaman va suivre ce que le prophète Élisée lui dit, va se plonger dans l'eau du Jourdain, devient pur et va reconnaître le Dieu d'Israël comme son Dieu. Donc il se passe vraiment quelque chose d'absolument incroyable dans son cœur et dans sa vie. Et simplement parce que cette petite fille, à un moment, a eu à la fois le courage et la foi de dire à sa maîtresse « mais il y a quelque chose de possible pour Naaman ». Et cette petite fille, elle vivait un quotidien difficile, elle était toute seule, au service d'une maîtresse étrangère, sans espoir d'une vie meilleure. Elle savait pas ce qui pouvait se passer, elle n'avait pas d'avenir particulier. Et pourtant, sa piété et sa foi n'ont pas été modifiées par ces circonstances difficiles, par la captivité. C'est des choses qu'elle a dû apprendre avec sa famille avant d'être emmenée comme captive, et elle a continué à les croire, et elle a eu la foi qu'Élisée pouvait guérir son maître. Alors qu'à l'époque, Élisée n'avait guéri aucun lépreux. C'est Jésus qui le dit en Luc 4, 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Et elle a eu de l'amour et de la compassion pour quelqu'un qui était un ennemi. Elle a vu la situation terrible dans laquelle se trouvait Naaman, puisque la lèpre est une maladie absolument terrible qui, à l'époque, ne guérissait pas, une maladie qui touche le système nerveux et qui, à l'époque, finissait par entraîner la mort. Dans la loi juive, en plus, c'était synonyme d'impureté qui imposait de vivre à l'écart. Alors, ça n'était pas le cas en Syrie, et il pouvait assumer des responsabilités aussi longtemps que sa santé le permettait, mais la jeune fille, la petite fille, aurait pu le voir comme un signe de malédiction et d'impureté sur cet homme. Au verset 1 du chapitre 5, on voit aussi qu'à la fois c'était quelqu'un qui avait la faveur du roi, qui était considéré, qui était fort, qui était vaillant, qui avait même été utilisé par Dieu. Le nombre d'adjectifs utilisés pour parler de Naaman est très impressionnant. Donc, elle aurait pu aussi se laisser impressionner par l'aspect extérieur. Et pour autant, elle est allée au-delà des apparences. Et c'est intéressant de voir que ce qu'elle dit est pris au sérieux à la fois par sa maîtresse, par le mari de sa maîtresse, Naaman lui-même, et puis par le roi. Et pourquoi est-ce que ça a été pris au sérieux? Peut-être parce que pendant des mois, elle avait servi auprès d'eux avec douceur, dans une bonne attitude de cœur, et elle avait gagné la confiance de ses maîtres d'une certaine façon. Peut-être qu'elle avait dit d'autres choses avant. On voit ensuite que Naaman reconnaît le Dieu d'Israël comme son Dieu. Donc, on ne sait pas si elle en a dit plus. Mais en tout cas, là, elle dit quelque chose qui est pris très au sérieux. Et c'est pas parce qu'elle a parlé 5 minutes, c'est sans doute parce qu'il y a eu des mois et des mois où elle a servi auprès de sa maîtresse de façon fidèle et douce. Et il y a eu un impact incroyable à ce qu'elle a partagé, qui a entraîné la guérison physique de Naaman et la reconnaissance du vrai Dieu par un général païen, un général syrien. Et voilà, si ensuite on rapproche les deux passages, en fait, ça m'a touchée, ça m'a interpellée. Toutes ces deux femmes sont toutes les deux dans une situation qui est difficile, une situation qu'elles n'ont pas choisie, une situation qui est assez largement le fruit du péché des autres, dans un monde où elles sont étrangères, où elles sont isolées. Et pour autant, dans la mesure où ça dépend d'elles, toutes les deux, elles ont eu une réaction pieuse et elles ne se sont pas enfermées en disant bah, « puisque c'est comme ça, je pense d'abord à moi ». Toutes les deux, je pense qu'elles ont reçu un enseignement pieux avant et au moment où elles se sont retrouvées dans cette situation où elles ont été assez isolées, en fait, elles ont continué de pratiquer ce qu'elles avaient reçu avant. Et tout ce qu'on a entendu d'Ingrid aussi tout à l'heure, c'est une réaction qui est fondée sur tout l'enseignement qu'elles ont reçu et qu'elles ont serré dans leur cœur, qu'elles ont mis en pratique. Et puis toutes les deux, elles ont surmonté leur crainte par amour. Toutes les deux, elles pouvaient être dans la crainte. Esther par rapport au roi, qui en plus avait droit de vie et de mort sur elle. La petite servante, elle pouvait avoir la peur de Naaman, qui était quelqu'un de très très puissant et très impressionnant. Et en fait, Esther a surmonté cette crainte par amour pour son peuple, et la jeune servante a surmonté cette crainte par amour pour Naaman, qu'elle a vu son besoin au-delà des apparences, et donc elles sont allées au-delà de ce qu'elles pouvaient voir ou ressentir dans leurs émotions. Face à un roi ou un général impressionnant. Je crois que vraiment, peu importe notre situation, notre condition, nous avons un message et du coup, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de réagir pieusement, quelle que soit la situation, en sachant que on a une chance incroyable, c'est qu'on a un message d'espoir pour les autres. On a un privilège extraordinaire qui est celui de connaître Dieu, de savoir qu'il nous a aimés au point de que Jésus abandonne sa gloire céleste, qu'il vienne s'incarner, qu'il vive avec nous sur terre comme un être humain, qu'il donne sa vie pour mourir pour nous à la croix. Et on a cette chance extraordinaire de connaître ce Dieu-là qui nous a aimés à ce point, avec qui on peut avoir une communion, qu'on peut prier, qui nous parle par sa parole. Et ça, c'est quelque chose dont énormément de personnes autour de nous ont besoin. Et Souvent, ben forcément, les gens ont une apparence, et si on s'arrête à cette apparence, peut-être qu'on peut être impressionné ou ne pas voir au-delà le besoin des personnes qui nous entourent. Mais en réalité, quand on connaît un peu plus certains, on se rend compte, que même des gens qui ont l'air d'avoir ce qu'il faut et de pas avoir de besoin, n'ont pas forcément, n'ont pas la paix que nous avons dans le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas le sens de l'existence. On découvre quelquefois qu'il y a des personnes qui prennent des médicaments pour éviter la dépression, qui ont des choses difficiles. Et puis, en tout état de cause, le péché est une forme de lèpre qui détruit chaque homme à l'intérieur. Et donc, il y a une fragilité. On a besoin de se souvenir de la fragilité et du besoin de chaque personne au-delà de ce qu'on peut voir. Dieu peut faire des choses magnifiques. Je pensais juste à ce verset, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est un verset quelquefois, enfin, à titre personnel, j'ai eu tendance à lire trop vite, en me l'appropriant, en pensant qu'il pouvait faire pour moi, infiniment au-delà de ce que je demandais ou pensais. Mais si je le relis correctement, c'est pas ce que dit ce verset. En fait, il s'agit pas de faire quelque chose pour nous. Mais il s'agit de Dieu qui va faire quelque chose par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons être utilisés pour la gloire de Dieu, infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est vraiment une accumulation de superlatifs dans ce verset. C'est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est un terme en grec qui est devenu hyper en français. Quand on dit hypermarché ou je suis hyper contente, voilà, c'est en français HYPER. C'est le terme hyper en grec. Et en fait, il apparaît deux fois. C'est d'abord hyper au-dessus de toute chose. Et puis ensuite, un autre mot avec le verbe qui veut dire excéder. Une petite préposition, un petit mot avant qui intensifie encore cette idée d'excéder, et le terme hyper qui veut dire que ça excède au-dessus d'eux. Donc c'est comme si c'était au-delà de toute chose, surabondamment, au-delà et au-dessus de tout. C'est vraiment une accumulation de superlatifs pour nous dire que Dieu a mis ce trésor en nous, c'est sa présence, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en nous peut faire totalement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et Dieu nous donne vraiment ce dont nous avons besoin. En 2 Timothée 1, versets 6 à 8, Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et c'est vrai que souvent on voit notre propre timidité, on voit nos limites, mais la Bible nous dit que Dieu nous a donné ce qui était nécessaire. Et d'abord, il nous parle de force. C'est un terme qui parle de force, de puissance morale aussi. Donc tout ce qui nous paraît être le contraire de la timidité. Donc a priori, on n'a pas besoin d'être timide ou d'être craintif parce que Dieu nous donne cette force, mais il nous donne pas seulement ça, il nous donne aussi son amour, et là c'est le terme agapé qui parle de l'amour de Dieu qui donne gratuitement. Et en fait, quelle est la motivation aussi qui peut nous permettre de surmonter nos craintes? C'est l'amour de Dieu pour les autres, c'est de savoir que on a quelque chose dont les autres ont besoin et du coup que on peut aller au-delà de nos craintes pour le communiquer. Et non seulement il nous donne sa force et son amour, mais il nous donne aussi sa sagesse. Et c'est un thème qui parle de sagesse, de contrôle de soi. Et en fait, c'est le comment fait-on? Parce que c'est bien d'avoir de la force, c'est bien d'être motivé par l'amour. Mais en plus, Dieu nous donne sa sagesse pour savoir comment dire les choses, peut-être à quel moment il va nous donner les mots. Donc on peut vraiment lui faire confiance que Dieu nous donne un message à communiquer aux autres, et il nous donne la force de le dire, il nous donne l'amour qui est nécessaire pour qu'on puisse aller au-delà de nos craintes pour le dire, et il nous donne la sagesse aussi, si on ne sait pas comment le dire, c'est lui qui va nous donner sa sagesse pour qu'on puisse le communiquer. Et vraiment, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et c'est, si on n'avait que l'amour, on pourrait chercher uniquement à dire des choses qui seraient pas correctes, mais il nous donne sa sagesse et sa vérité. Et il nous, de même que on sait que Jésus-Christ a apporté la grâce et la vérité, et c'est ce qu'il nous communique. Il nous communique sa grâce et sa vérité pour pouvoir communiquer aux autres. Et beaucoup de passages dans le Nouveau Testament aussi nous parlent de la lumière de Christ en nous qui est un trésor, et peu importe le vase dans lequel il est porté, parce que l'important, ce n'est pas que le vase attire les regards, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce vase qui a besoin d'être exprimé. On lit en 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7, que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et nos paroles auront du poids le moment venu parce que notre vie elle-même communique Christ. Peut-être que les paroles de la jeune servante ou les paroles d'Esther qui sont rapportées dans la Bible, ça a été un quart d'heure ou une demi-heure. Peut-être que ça a été un temps limité, mais elles ont eu un impact, elles ont été reçues parce que c'était aussi des femmes qui avaient vécu pieusement cette piété s'était exprimée, avait fait qu'elles ont pu être reçues par les personnes auxquelles elles sont adressées. Il y a un point à nos paroles. Aussi parce que c'est l'expression de notre vie et de notre cœur. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, le fait de réagir selon le cœur de Dieu, c'est en soi déjà un témoignage, même sans parole, mais qui fait que quand peut-être il y aura une opportunité, il y aura un moment où il y a quelque chose à dire, ça aura du poids. En 1 Pierre chapitre 3 versets 15 à 16, il est dit aussi de sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc, il est parlé de la bonne conduite en Christ qui fait que ça ferme la bouche, finalement, aux personnes. Et quelquefois, on peut avoir une mauvaise image de ce que c'est que d'être un bon témoignage. On se dit, il faut absolument que je sois un bon témoignage. Et s'il y a quelque chose qui va de travers, du coup, on dit, ah ben, j'ai pas été un bon témoignage. Mais en fait, c'est aussi une forme de transparence devant Dieu. Et les gens n'ont pas besoin de voir des extraterrestres ou des superwoman. Ils ont besoin de voir des gens qui vivent avec leur Dieu. Et vivre avec notre Dieu, c'est aussi être capable de reconnaître nos torts. Si on s'est un peu accroché ou si on a fait quelque chose ou on a eu une attitude pas correcte, c'est être capable de demander pardon. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans ce monde et qui peut aussi toucher. Et en fait, oui, juste appliquer les principes qu'on voit dans la parole et vivre de façon sincère en acceptant quelquefois d'être humble, quelquefois de demander pardon, de s'excuser. C'est des choses que le monde n'aime pas beaucoup. L'humilité, c'est pas un terme très apprécié dans ce monde, mais c'est quelque chose qui peut toucher, qui peut interpeller. Donc, oui, juste vivre de façon transparente et sincère en mettant Dieu en premier dans notre cœur. Parfois, ça peut être aussi faire ce qu'on appelle le deuxième mille. De temps en temps, Dieu peut nous nous mettre à cœur d'aller un petit peu au-delà de ce qui serait naturel, de ce qui serait normal, mais voilà, juste être sensible à Dieu. Et en tout cas, vraiment se souvenir que on a un privilège extraordinaire de connaître Dieu et que c'est un message dont les autres ont besoin. Et que je me rends compte, par exemple, au niveau du travail, quelquefois j'essayais un tout petit peu, ou si quelque chose, il y avait des situations dans lesquelles je savais que Dieu vraiment m'avait aidé et que c'était lui qui avait tenu les choses et qui m'avait sorti d'une mauvaise situation. Et du coup, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire grâce au ciel, ou voilà, des petites expressions comme ça, pour pas, je voulais pas choquer, et puis en même temps je voulais faire un petit clin d'œil pour semer un petit quelque chose. Et puis là, il y a eu une personne avec qui il y a eu une opportunité, et en fait je me rendais compte que même quand je témoignais, je parlais un petit peu de la foi, du thème de Dieu, mais j'allais pas plus loin. Et là, j'ai eu à cœur vraiment de dire simplement, en tout cas c'est parce que j'ai beaucoup reçu et j'ai la chance de connaître un Dieu qui m'a aimé au point de venir sur terre et de mourir pour moi. Voilà, il y a une personne à qui je l'ai dit comme ça, et je sais que c'est, voilà, j'avais vraiment besoin d'exalter l'œuvre de Christ. Et finalement, c'est en me rendant compte de la chance que j'ai, du privilège que j'ai de connaître Jésus, de savoir que j'ai un Sauveur qui m'aime, qui tient toutes choses entre ses mains, de me souvenir de toute cette voilà, ce privilège que j'ai, que ça donne envie de le communiquer. Et en même temps, voilà, Dieu est grand, Dieu est vivant, c'est lui qui intervient. Et puis chaque personne garde son libre arbitre. Donc on peut rien contrôler, et il peut y avoir de mauvaises réactions. Ça dépend pas de nous. On est juste des instruments dans la main de Dieu. Mais je voulais juste vous encourager et nous encourager mutuellement à nous souvenir que on a un trésor qui est vraiment précieux, et que quelle que soit l'apparence des personnes qui sont autour de nous, les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de connaître ce Dieu, ont besoin de savoir qu'il y a un sens à leur vie, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu prend soin de nous. C'est quelque chose d'extraordinaire, et voilà. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'apparence des gens, qu'on puisse juste se laisser guider. Quelquefois, pendant un an, pendant deux ans, il n'y aura aucune opportunité, puis quelquefois il y aura un petit quelque chose qu'on pourra dire. On a ce privilège, et on a un beau message, on a vraiment un message à apporter. Donc en étant nourri par la foi, par la parole, comme l'a dit Ingrid, on a quelque chose pour les autres.